France Inter, le 18-20.
Bonsoir, on l'oublie souvent, mais l'Europe, ce n'est pas uniquement que 28 États membres, bientôt 27, c'est aussi une mosaïque de près de 300 régions et territoires. Et pour aider à leur développement, eh bien, les États, donc l'Europe, injectent de l'argent, beaucoup d'argent, 451 milliards d'euros entre 2014 et 2020. La France a reçu 27 milliards d'euros. Pour la période 2020-2027, les discussions sont en cours. En raison notamment du départ des Britanniques, il y aura sans doute une baisse des crédits de 6 à 10%. 378 milliards d'euros, ce sont les chiffres qui tournent, qui seront peut-être injectés. Les objectifs de ces financements régionaux sont multiples. Aide à l'innovation, à la recherche, au développement technologique, soutien à l'emploi, aux PME, promotion, investissement dans l'éducation, l'apprentissage, la protection de l'environnement. Question ce soir donc à l'heure où l'on parle beaucoup de désertification rurale, quand les territoires en France se sont oubliés. Où va cet argent? À quoi sert-il? Est-il vraiment bien utilisé? Que fait l'Europe pour le développement de nos territoires? En direct du Parlement européen, c'est le Téléphone Sonne Europe sur France Inter jusqu'à 20h.
Le Téléphone Sonne Europe, Stéphane Le Neuf.
Au 01 45 24 7000, on retrouve André. Bonsoir André, vous nous appelez du Morbihan, on vous écoute.
Oui, bonsoir, j'étais candidat en 2009 et je peux vous dire une chose, je suis bien évidemment tout ce qui concerne l'Union européenne, mais votre sujet concernant le financement me permet de dire que ce financement est non seulement complexe, mais il est souvent opaque. Et si vous rentrez dans le détail, vous n'y comprenez plus rien. Et un seul exemple, la France verse 16 milliards, c'était en 2017, et elle a reçu la part la plus importante, elle a reçu 13 milliards. Alors que l'Allemagne, qui a versé 19 milliards, en a reçu moins. Je vais vous dire, allez-y y comprendre, je sais bien que le critère c'est richesse nationale. Chaque pays participe à hauteur de la richesse nationale. Mais le problème, c'est que vous avez aussi le coût. Vous n'avez pas que le financement. Ça veut dire que, sachez quand même que la part, je dirais, technocratique, les fonctionnaires représentent près de 10% du budget, c'est-à-dire environ 10 milliards. Ça concerne plus de 50 000 fonctionnaires. Tout ça, c'est très difficile à savoir. On sait juste que la plupart de ces fonctionnaires touchent plus de 100 000 euros par an, excusez-moi. Et donc,
Dernière chose, si vous voulez,
liée à ça, je voudrais juste dire, comment voulez-vous que les gens aillent voter alors qu'on commence à parler de l'Europe et à chaque fois on le dit, mais ça recommence à peine 3 mois avant les élections. Comment voulez-vous que les gens s'intéressent à l'Europe alors que
on va essayer de répondre à votre question. Vous avez raison. Comment intéresse effectivement les gens à l'Europe? Ce soir, on va parler de choses concrètes, c'est-à-dire de l'argent qui arrive dans les territoires. Vous avez parlé de complexité, d'opacité. Pour répondre ce soir à vos questions, trois invités autour de cette table. Marc Joulot, bonsoir.
Bonsoir.
Du groupe populaire, Parti Populaire Européen. Karim Adeli, bonsoir.
Bonsoir.
Du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Et Éric Andrieu, bonsoir.
Bonsoir.
Du groupe des Socialistes. Réponse à André, opacité, complexité, Éric Andrieu, est-ce que les financements régionaux, on va en parler, qui vont directement sur les territoires, est-ce que ce sont des financements opaques et complexes?
Non, opaque, je pense que le mot est fort, complexe certainement, et c'est une des raisons qui nous amène à modifier, je crois, ce coup-ci, dans ce qu'on appelle cette politique de cohésion, pour simplifier les règles de mise en œuvre. Le mot simplification est dans la bouche de tout un chacun, ici, dans ce Parlement. Nous allons voir comment, dans les années à venir, on va pouvoir y parvenir, mais c'est vrai qu'en tant que bénéficiaire, il faut simplifier les procédures pour que, à la fois, de telle sorte que les projets portés donc, par les acteurs, qu'ils soient économiques ou sociaux, puissent se mettre en œuvre et que les fonds mis en œuvre par l'Union européenne arrivent rapidement auprès du bénéficiaire.
Karim Adeli, 27 milliards d'euros, la France a touché 27 milliards d'euros en 7 ans. Concrètement, comment sont organisés ces fonds sur les territoires? Comment ils arrivent effectivement dans les régions, dans les départements, dans les communes?
Alors, c'est une des grandes complexités de la France. Parce qu'au fait, au départ, la politique de cohésion, les fonds arrivaient dans une enveloppe du budget de l'État. Et l'État, en fait, utilisait un peu les fonds de cohésion comme elle voulait. À partir de 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait des régions. Et donc, il n'y a que le FEDER qui aujourd'hui est géré par les régions. Alors, le FEDER, c'est quoi ? C'est
un peu compliqué. Fonds européen de développement régional.
Voilà. C'est surtout pour les infrastructures. En termes d'exemple, en France, il y a plein de beaux projets sur les rénovations, notamment de logements, qui sont financés par des fonds FEDER. Et le problème, il est que les régions, au fait, maintenant, elles gèrent le FEDER, une petite partie du FSE sur tous les programmes,
fonds
notamment...
Fonds social européen.
Fonds social européen sur la politique, sur la formation professionnelle et les programmes d'intégration sociale, etc. Le problème de fond, il est que à quelle porte on doit frapper pour savoir utiliser les fonds. Il n'y a pas, par exemple, comme en Allemagne... Il y a des, ce qu'on appelle des bourses aux projets. Tous les 6 mois, dans les régions, on ouvre les portes et les fenêtres. On dit porteur de projet, comment on peut vous accompagner à monter votre projet ? Parce qu'en général, les porteurs de projet, ils sont effrayés, et Éric Landrieux l'a très bien dit, par la complexité de la mise en œuvre des projets européens. Et donc ça, c'est un véritable objectif, c'est la simplification. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que c'est financé par l'Europe, par des fonds européens, eh ben, les gouvernements, les régions ou même les maires ne disent pas « merci l'Europe ». On dit « merci la région, merci le maire, merci le gouvernement ». Alors que ce n'est pas vrai, ça vient directement des fonds ici de l'Union européenne.
Marc Gelot, donc André a raison, il y a de la complexité, Karim Adeli vient nous l'expliquer, il y a de l'opacité. Il faudrait quoi ? Il faudrait déléguer totalement aux régions la gestion de cet argent. Je le rappelle, hein, 27 milliards d'euros sur 7 ans, c'est énorme.
Il est évident, et les collègues l'ont dit, la simplification, c'est un des enjeux majeurs, un des premiers enjeux de la future politique de cohésion pour les années 2021-2027, qui est en train de se mettre en place et de se décider aujourd'hui. Pour revenir sur les propos de l'auditeur tout à l'heure, ces fonds européens, la collègue l'a dit, ils sont aujourd'hui gérés par les régions, donc ils sont gérés en proximité pour les principaux, pour le FEDER. Donc il faut, pour simplifier les choses, il faut des règlements qui soient plus simples, il faut des contrôles bien sûr, mais on est sur des procédures de contrôle multiples qui sont beaucoup trop exigeants, qui sont répétitifs. Il faut faire connaître ces fonds aux acteurs locaux.
Alors les acteurs locaux, c'est qui concrètement ? Parce que on parle des régions, on parle des départements, mais c'est qui ? Ce sont les chambres de commerce, ce sont les chambres d'agriculture, ce sont les entreprises, ce sont qui sont les acteurs locaux, Éric Andrieux ?
Ben, les acteurs locaux, ce sont les acteurs, c'est-à-dire donc un chef d'entreprise peut avoir.
Je suis chef d'entreprise, je peux aller taper à la porte de la préfecture. Exactement, et demander c'est... de l'argent ou à la
pas
porte de la région.
Aujourd'hui, il faut préciser, en France, on a pris conscience que les régions, il y a eu la volonté au nom de la simplification d'amener les aides au plus près des bénéficiaires, et donc on a confié la gestion de ces fonds aux conseils régionaux. Et c'est vrai pour le FEDER, pour une partie du fonds social, pardon, pour l'investissement, pour une partie des fonds sociaux européens, à la fois par les régions, mais aussi par les départements, qui en France ont la compétence de l'action sociale, donc tout ce qui touche à l'insertion, la formation professionnelle, donc tout ce qui est l'apport à l'emploi, et tout ce qui est de l'agriculture également, à travers le FEADER, en sort des fonds de cohésion, mais tous les programmes agricoles sont gérés par les régions, avec le souci de rapprocher finalement l'administration du bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est un agriculteur, c'est un citoyen, c'est un jeune qui est en recherche d'emploi, c'est une entreprise qui veut se développer et qui veut mettre en place des plans de formation, c'est donc une collectivité qui veut mettre en place une station-service, un multiservice, qui veut mettre en place une salle de culturelle, une salle d'exposition, qui veut donc mettre en place des infrastructures. Et donc là, on va pouvoir, le bénéficiaire va solliciter la région et dire voilà, j'ai mon projet, est-ce que les fonds européens peuvent m'aider ? Oui, donc il y a des plans régionaux qui sont mis en œuvre dans un cadre national et on peut faire appel à fonds. Et c'est vrai, Carmel le disait à l'instant, souvent le problème, c'est qu'on ne dit pas, lorsqu'on réalise un projet, que ce projet est cofinancé par les fonds européens. Mais tous nos projets, moi j'ai été élu rural, maire, président d'intercommunalité, vice-président d'un département, d'une région, pendant 30 ans, successivement, et je peux garantir ici que l'on dit trop peu que les projets réalisés sur nos territoires sont financés par un apport important des fonds européens. Mais les citoyens ne le savent pas, et c'est bien dommage.
Alors pour quelle raison, on ne le sait pas, Karim Adeli, la communication passe pas au niveau local ?
Bah, c'est que la
un barrage ou...
C'est que déjà, c'est très complexe de savoir qu'il y a ces fonds dans les régions. Quand vous êtes un porteur de projet, ça peut être, tu l'as très bien dit, Éric Andrieux, mais que ce soit une association ou une start-up, elle n'a pas forcément tendance à aller directement pour cofinancer son projet au conseil régional. Donc là, les conseils régionaux devraient être véritablement les lieux d'investissement, entre guillemets, de ce budget européen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à chaque gouvernement, alors moi je les demande à chaque gouvernement, quand vous allez sur le ministère des Affaires européennes, où sont les projets ? Moi je suis dans une région qui s'appelle Nord-Pas-de-Calais, qui est une région quand même qui a été désindustrialisée, et je peux vous dire qu'on a subi la mondialisation, etc. Et pourtant il y a des projets qui émergent et qui sont fabuleux. Pourquoi on ne donne pas ce côté positif ? Et sur ce, rien que sur ce site, on met pas l'ensemble justement des projets financés par les fonds européens. Et donc c'est parce que je crois qu'il y a une bataille d'ego des institutions en disant on a l'impression d'être, on n'est pas fier d'être européen et de dire grâce à l'Europe. Aujourd'hui, on cache et on dit c'est mieux l'esprit un peu national. On dit c'est grâce au gouvernement, grâce à la région. À un moment, il faut siffler la fin de la récré et dire quand c'est grâce à l'Europe, faut faire grâce à l'Europe.
Voilà. Parmjolo.
Oui, moi je partage totalement. Moi, j'ai fait dans ma région, qui est les Pays de la Loire, une enquête auprès de tous ceux qui ont reçu des fonds européens entre 2014 et 2018, des associations, des entreprises, des collectivités locales. Qu'est-ce qu'ils me disent ? À 70%, ils estiment que sans les fonds européens, ils n'auraient pas pu réaliser leur projet parce que ça a eu un effet de levier, ça leur a permis d'avoir d'autres financements. Ils me disent à 90%, c'est extrêmement complexe, il faut simplifier vos procédures, c'est trop long. Et troisième, à plus de 60%, ils me disent, ça nous servira à solliciter à nouveau des fonds européens. Et d'une certaine manière, c'est eux. Il faut utiliser celles et ceux qui ont déjà bénéficié de fonds pour expliquer à des collègues, des homologues, de faire partager ces fonds européens qui sont trop peu connus. C'est vrai que les institutions, mairies, départements, régions, ne mettent jamais en avant les fonds européens. Et voilà, ça c'est un problème. Mais on dit souvent que l'Europe n'est pas assez proche. Là, les fonds sont gérés en proximité dans les régions, il faut que d'une manière ou d'une autre, on trouve le moyen d'accroître la communication et l'information par transparence sur cette politique de l'Europe au niveau régional.
Éric Andrieux, oui. Et on retournera au
Sénat. C'est vrai qu'on voit bien en France quand même qu'il y a des inégalités entre régions. Moi, je vis en région Occitanie, je peux vous dire que sa présidente, Carole Delga, a vraiment pris la mesure. Elle a mis en place des services qui informent les territoires. Et le lien entre la dynamique territoriale, c'est-à-dire donner la possibilité par de l'ingénierie à des acteurs sur les territoires, citoyens, du commerce, de l'artisanat, des services, des mobilités ou autres, de mettre en dynamique des projets territoriaux et de faire appel à des fonds européens, ça passe effectivement par les collectivités locales qui accompagnent. Donc soit on se donne les moyens d'accompagner les porteurs de projets, ce qui est le cas dans certaines régions, et là on peut avoir accès à des fonds européens conséquemment, et ça développe les territoires. C'est bien la question finalement de la procédure et du processus qui met en dynamique les porteurs de projets sur les territoires. Mais ça, c'est important d'accompagner, parce que les moyens sont importants et ils doivent toucher l'emploi, les services et finalement l'épanouissement des territoires au sens large.
Au 01 45 24 7000, Charlie, vous nous appelez des Alpes de Haute-Provence avec un témoignage, parce que vous êtes porteur d'un projet européen, je crois.
Oui, bonsoir, le téléphone sonne. Alors, je suis pas porteur d'un projet européen. Je vous remercie juste pour vos émissions qui sont chaque soir au top. Donc, en fait, moi, je suis pas porteur de projet. J'anime un programme de fonds européens. Je voulais juste témoigner en fait de l'impact concret de l'Europe sur les territoires, et notamment les territoires ruraux. J'anime un programme qui s'appelle le programme Leader en région sud, donc dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Digne-les-Bains, voilà, pour ceux qui connaissent. En fait, il s'agit d'une enveloppe gérée localement par des acteurs locaux et pour des projets locaux. Alors, pour nous, par exemple, ça représente plus de 3 300 000 euros pour notre territoire. Donc, c'est pas rien. Alors, c'est sûr qu'à l'échelle des fonds européens, à l'échelle de la France, c'est sûr que c'est peut-être pas grand-chose. Mais voilà, pour nous, les territoires ruraux, c'est une enveloppe qui est importante. Et en termes de fonds européens sur cette enveloppe, ça représente quasiment 2 millions d'euros pour des projets très concrets, un agriculteur pour de la transformation de produits locaux, une crèche, une maison de santé, etc. Voilà, je voulais juste témoigner en fait de ce que nous on fait sur les territoires, les programmes leaders, au travers des comités locaux en fait qui décident à qui ils attribuent les projets. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure on va dire, d'éloignement de l'Europe des territoires. Le programme Leader, et c'est une richesse, et ça existe depuis les années 90, hein, ce programme, le plus de ce programme, c'est des antennes, en fait, au niveau local, et des équipes techniques qui accompagnent notamment les porteurs de projets. Voilà, il y avait une partie, donc, témoignage que je voulais faire ici, et puis du coup, parce que concrètement, on le met en œuvre et on accompagne les porteurs de projets, et vous en avez déjà un petit peu parlé, c'est la complexité des fonds européens. Nous, on le voit au quotidien avec nos porteurs de projets. On a une trentaine de projets dans la malle, hein, pour notre territoire, notre petit territoire. La difficulté, c'est effectivement la complexité des démarches pour des fois, en fait, des projets qui vont être au maximum de 80 000 euros de fonds européens. Donc, et je dis maximum, ça représente une belle somme, hein, j'entends, mais contrairement à des programmes que vous avez déjà évoqués aussi, FEDER, FSE et parfois aussi certaines mesures du FEADER, c'est beaucoup d'acronymes.
FEADER, c'est le fonds agricole. Hein.
Voilà. En fait, je voulais juste dire que proportionnellement, en fait, au montant que nous, on peut attribuer au niveau local pour ces programmes leaders, c'est très complexe, quoi. La démarche est très compliquée. Et heureusement que nous, on sert en tant qu'animateur et gestionnaire du programme au niveau local, de guichet unique aussi, parce qu'on les redirige aussi souvent vers d'autres mesures de fonds européens, où on les accompagne tout au long de leur dossier pendant la période 2014-2020. Voilà, je ne sais pas si vous avez...
Merci Charlie de votre témoignage, exemple concret effectivement de ce que peut faire l'argent pour ces fonds européens. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler combien il y a de fonds, parce qu'il y en a... Alors Charlie parle effectivement, on parle beaucoup de la complexité des fonds depuis le début de l'émission. On peut peut-être rappeler Éric Andrieux et Karim Adeli et Marc Jolot, combien il y a de fonds aussi, où est-ce qu'il faut s'adresser, on l'a vu, on va à la région, mais visiblement il y a 5 fonds principaux, c'est ça?
Alors il y avait 5 fonds, et là maintenant il va y en avoir 7,
c'est-à-dire... Donc ça simplifie pas les choses.
Donc il y a ce qu'on appelle le FEDER, on l'a évoqué, qui est le Fonds européen de développement régional, c'est les fonds d'investissement globalement et de développement lié à l'économie. Le Fonds social européen, ça a été dit, pour la formation, l'insertion, ce qui touche à la personne, hein, donc au lien social, donc principalement. Le Fonds de cohésion, dont on ne perçoit pas en France, dont bénéficient les régions les plus pauvres à l'échelle de l'Union européenne. Le FEADER, mais ça c'est un fonds agricole qui va passer, il y a un grand débat d'ailleurs dans le cadre de la politique agricole commune, c'est un sujet qui nous occupe régulièrement. Le FEAMP, c'est le fonds de la pêche, donc pour accompagner la pêche. Et les deux que nous rajouterions, donc si on vote, voilà, si on va jusqu'au bout, c'est le fonds immigration et le fonds sécurité, au regard du contexte nouveau, qui effectivement va prendre en compte la partie migratoire à l'échelle communautaire. Mais chaque fonds, c'est bien un sujet d'ailleurs, donc c'est que, Charlie l'a bien dit, il faut qu'il y ait des projets sur les territoires. Et donc il faut donner des moyens à l'inventivité, à la créativité, à l'imagination, et ça il faut mettre en dynamique les territoires, et les fonds sont là pour accompagner les projets. Et ça, c'est essentiel de prendre la mesure que l'ingénierie territoriale, elle n'est pas la même dans le milieu urbain, périurbain, qu'un milieu rural profond, et qu'il faut que nous le prenions en considération, et les territoires, je m'arrête là, n'ont pas la même dynamique ou le même équilibre de développement.
Karim Adeli et Marc Jolot.
Alors, on a vu qu'il y avait l'ensemble de ces fonds. Maintenant, le véritable problème, je crois, c'est que lorsqu'on est porteur de projet, en règle générale, on n'a pas de trésorerie. Et souvent, on pense que les fonds européens peuvent être... justement les premiers leviers qu'on reçoit dans notre trésorerie pour déclencher notre projet. Et le problème, c'est que les fonds européens, c'est complexe parce qu'on doit aussi attendre le cofinancement. Et le cofinancement, c'est de l'argent national et il n'arrive pas souvent en même temps.
Cofinancement qui arrive par quel biais, par quelle voie?
En règle générale, ce sont des fonds de la région. Qui...
On ne peut pas avoir de fonds européens d'argent de l'Europe s'il n'y a pas un cofinancement.
Non, en général, non.
Donc ça rajoute à la complexité des choses.
Voilà, et c'est pour ça que dans votre exemple, et Charlie, merci de tout ce que vous faites pour le programme Leader, parce qu'on a besoin justement de l'ingénierie, de l'accompagnement. On a besoin de former ces personnes qui montent vite les projets, qui aident justement les petits porteurs de projets, parce que la France a énormément d'argent et parfois, vous savez ce qui se passe dans les budgets, c'est qu'elle perd de l'argent parce qu'elle n'a pas consommé son argent. Et donc, il faut que la prochaine programmation, moi j'envoie un message très fort au gouvernement de dire, il faut de l'assistance technique, il faut embaucher des gens pour monter justement ce genre de projet.
Marc Joulot, vous avez été l'auteur d'un rapport il y a quelques mois effectivement sur l'avenir des fonds de cohésion. Est-ce que, par quel biais on peut simplifier effectivement ? Est-ce qu'on va avoir besoin systématiquement de cofinancement pour lancer des projets ? Ça simplifierait quand même les choses si on n'ait pas besoin forcément d'un cofinancement pour présenter un projet, pour avancer, pour avoir effectivement de la trésorerie pour démarrer quelque chose, créer une entreprise, une start-up par exemple.
Le cofinancement restera la règle générale. C'est pas pour complexifier, mais un projet ne peut pas démarrer, se mettre en marche uniquement sur des fonds européens et pas d'aide nationale, régionale.
Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ?
Parce qu'on considère que les participations, c'est vrai pour les collectivités locales, c'est vrai aussi pour les fonds européens, qui doit le porteur de projet, celui qui développe une activité, un projet, doit bénéficier de soutien à la fois collectivité, pourquoi pas de partenaires privés, mais c'est un tour de table entre guillemets, et où l'Europe ne peut pas intervenir par exemple pour financer à 80% des projets. Moi ce que je veux simplement dire c'est, et on l'a dit beaucoup, ces fonds sont encore trop peu connus, alors qu'ils ont une vraie utilité sur les territoires.
Donc ça, on l'a vu, les régions ont intérêt à faire beaucoup de boulot pour
exactement.
Faire connaître cet argent.
L'enjeu de la simplification, il est capital et il émane bien sûr des règlements qui sont écrits ici au niveau européen pour les mettre en œuvre. La proximité essentielle pour que les contacts et l'insistance et les génériques soient sur place. Je voudrais un petit mot peut-être pour dire qu'on est parfois assez bon en France pour complexifier les procédures. Et toutes les difficultés ne viennent pas forcément de Bruxelles. On est plutôt pas trop mauvais dans ce domaine-là. Et dire que cette politique, c'est trop peu connue, c'est la deuxième politique européenne après la PAC. La politique à destination
un tiers du budget européen,
c'est ça. C'est pas assez connu. Et que pour la période qui s'ouvre, 2021-2027, parce qu'on s'est battu avec nombreux collègues, certes, les fonds, l'enveloppe globale va baisser de 10%, elle ne va baisser que de 5%. Pour la France. L'ensemble des régions françaises pourront continuer à bénéficier parce qu'il y a des mécaniques de critères. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette politique va se poursuivre. Toutes les régions pourront en bénéficier. Il faut la faire connaître et la faire partager sur le territoire.
19h45 sur France Inter. Le téléphone sonne Europe en direct du Parlement européen au 01 45 24 7000. On retrouve Annie. Vous êtes dans l'Isère, Annie. On vous écoute.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis très europhile, je suis née en même temps que l'Europe et je suis très contente de l'Europe. Mais je voudrais savoir comment les subventions européennes sont distribuées. Je viens d'apprendre que derrière chez moi, dans ma commune, 80 hectares de forêt allaient être coupés, puis arrachés et replantés en monoculture industrielle, subventionnée par l'Europe. Alors la forêt naturelle fournit du bois de chauffe, des piquets, des champignons, elle est un logement pour les animaux. Elle repousse toute seule, normalement, gratuitement, elle n'a pas besoin de subventions. Une forêt naturelle, ça stocke le carbone, donc ça lutte contre le réchauffement climatique. Ça tombe pas malade, donc il n'y a pas besoin de traitement. Et en plus, c'est beau, c'est agréable pour s'y promener. Alors j'aimerais savoir comment il se fait que l'Europe finance cette aberration. Reboiser, c'est bien, mais industrialiser la forêt, à mon avis, c'est pas très très bon. Et je voudrais recommander à tout le monde de voir le documentaire « Le temps des arbres ». Voilà.
Merci Annie, vous nous appelez l'Isère. Karima Deli vous répond.
Très simplement, ensuite. C'est que la politique de cohésion, lorsqu'elle est née, elle a été justement basée sur juste un critère, c'était le fameux PIB. Et on sait qu'aujourd'hui, ce PIB explose. Je vous donne un exemple très concret, c'est que la région Île-de-France, qui paraît comme une région très développée, hyper riche, on n'a pas vu justement les poches de pauvreté s'installer. Donc aujourd'hui, pour la prochaine programmation, on change et on met des nouveaux critères. Comme le chômage des jeunes, l'accueil des migrants,
etc. Mais là, quand même, Adélie, dans l'exemple concret de Annie.
Justement, Annie, si vous m'écoutez, c'est que désormais, plus aucun fonds de la politique régionale ne pourra aller à l'encontre du changement climatique et de l'environnement. Et il y a une exclusivité, c'est historique ce qui est en train de se passer, c'est que désormais, on exclut quoi ? Les énergies fossiles. Donc, si vous avez près de chez vous quelqu'un qui voudrait faire un grand projet qui va à l'encontre de l'environnement, appelez-nous, parce que normalement...
Là, visiblement, c'est trop tard pour Annie.
Je ne sais pas si Annie, concrètement, ça va encore se développer, etc. En tout cas, maintenant, on siffle la fin de la récré. On a enfin compris que l'Europe des territoires, c'est aussi l'Europe qui agit dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour l'environnement.
Éric Andrieux.
Oui, moi, par rapport à Annie, je ne peux pas mettre en doute son propos, bien sûr, mais il faudrait voir le dossier précisément. Je suis très surpris que ce qu'elle nous énonce puisse se réaliser, financé par des fonds européens. Parce que évidemment, on va préciser les indicateurs, donc Karima Deli vient de le dire, on va prendre des considérants comme sur le climat, sur l'environnement, sur le développement durable, et ça se renforce. Donc on a mis des objectifs de développement durable de 30%, c'est-à-dire qu'on va conditionner l'attribution des fonds européens à un certain nombre de critères, mais c'était déjà existant. Et je suis très surpris que ce type de projet puisse se réaliser. Il faudrait le voir concrètement.
Oui, oui,
et moi qui en ai monté un certain nombre en tant qu'élu local, je peux vous dire que pour le coup, les éléments les critères de sélection sont somme toute assez sévères et qu'effectivement, on ne peut pas comme ça déforester.
D'où la saisie.
Voilà. Et ça, c'est essentiel. Oui. Je pense heureusement qu'il y a ces accompagnants et ces contrôles-là, ce cadrage-là, qui fait que l'argent public ne peut pas aller n'importe comment. Et d'ailleurs, par rapport à votre question précédente de l'autofinancement, et c'est ça. En France, la règle qui prévaut, c'est qu'on ne peut pas, l'opérateur privé ne peut pas bénéficier de plus de 80% de financements différents. Et d'ailleurs, c'est vrai pour une collectivité, commune ou intercommunalité. Et c'est vrai aussi donc pour les règles européennes. On ne peut pas financer à 100% des projets parce que c'est aussi de la pertinence du porteur de projet dont il est question. Et qu'un projet économique ou social ou environnemental, il se justifie dès lors que le porteur de projet donc, est vraiment partie prenante de la réalisation du projet.
Karima Deli.
Alors, je vais dans le sens de mon collègue, avec quand même, ça il faut le dire, c'est que les fonds de cohésion sont contrôlés. Il y a des autorités. Donc moi j'invite à Annie, justement, à nous faire remonter ce dossier, et qu'il y a l'autorité de contrôle des fonds de cohésion qui viennent voir si, justement, c'est en accord avec notre feuille de route. Si c'est pas en accord, eh ben, je peux vous dire que les fonds vont devoir être remboursés.
Lionel, au 01 45 24 7000, vous nous appelez de Bourgogne. Bonsoir Lionel, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Ben, écoutez, j'arrive un peu après la bagarre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui répondent en partie aux questions que je voulais poser. Mais grosso modo, je vais schématiser. En ce qui concerne les fameuses subventions européennes, enfin pardon, les fonds européens qui sont censés passer aussi par les régions, je voudrais signaler quand même une chose. C'est que lorsqu'il y a eu la fusion des régions, notamment par exemple Bourgogne-Franche-Comté, ça, c'est devenu une véritable pétaudière, entre guillemets, pardon. Hein. Mais lorsque j'ai voulu m'adresser, je suis président d'une association qui a un projet, effectivement, en ce qui concerne l'eau potable, notamment. Et si vous voulez, là, un lobbyiste à Bruxelles m'a dit, n'essayez même pas d'y mettre le doigt si vous n'avez pas vous-même un préfinancement pour monter un dossier, parce que personne ne sera capable de s'intéresser à ça au niveau de la région. Voilà ce qui m'a été dit. Moi, j'ai cherché au niveau de la région un contact. Bah, grosso modo, il n'y a personne. Voilà, personne n'est compétent en la matière. Le guichet unique, c'est un rêve.
Bon, c'est un rêve visiblement en Bourgogne-Franche-Comté, hein. C'est ce que vous venez de nous dire Lionel. Alors, j'espère pour vous que ça va s'améliorer. Marc Joulot, exemple type vraiment de la difficulté, on en parle depuis le début, mais vraiment c'est compliqué dans certaines régions.
Oui,
certaines régions ont fait des efforts, mais il y en a d'autres, visiblement c'est compliqué.
C'est effectivement avec certaines compliquées. Moi, j'ai le contre-exemple, c'est la région d'où je suis, les Pays de Loire, qui sont restés les Pays de Loire, et effectivement, donc c'est plus simple. Mais on voit bien, bon, d'abord cette réforme, chacun voit son avis. Je pense que tout ça a été un peu bâclé, que ça ressemble à finalement pas grand-chose. Et on voit bien que sur ces fonds, la proximité, je ne sais pas, chaque région, pas avec des antennes, de la proximité auprès des acteurs locaux, est essentielle pour accompagner, faire connaître et mettre en œuvre les fonds européens. Si effectivement il faut faire 500 km pour commencer de rencontrer un agent à la région qui ne connaît pas forcément, on va forcément dissuader les porteurs de projets. Et ce qui se retourne contre l'image qu'on peut se faire à la fois de l'Europe, des institutions, et donc c'est un enjeu majeur, je pense, au niveau européen.
Éric Andrieux.
Oui, je pense que pour répondre à Lionel, mais pour entendre son message, je pense qu'au-delà du désordre, donc, parce que là, tout est arrivé dans les régions en même temps, en simultané, la question qui est posée et qui est essentielle, me semble-t-il, dans ses propos, c'est la question du portage financier. C'est-à-dire qu'il y a un projet, on va déposer le projet, déposer la demande de financement, on va obtenir les financements, ouais, dans le meilleur des cas, et les cofinancements se venant de l'État, de la région, du département par exemple, mais le temps que l'on réalise, et le temps que le projet se réalise, les fonds, avant qu'ils soient versés, il y a un temps latent. Et là, c'est une vraie question du portage financier. Qui assume le portage financier
pour démarrer l'activité, parce qu'il faut de l'argent pour démarrer, c'est le nerf de la guerre.
Et ça, c'est une question qui reste entière. Certaines collectivités, départements ou régions ont mis en place des systèmes d'accompagnement ou de préfinancement, mais là également, on voit bien que la défaillance, ça c'est mon point de vue, du système bancaire est prégnante. On pourrait très bien interroger les banques avec des prêts à taux zéro, par exemple, pour porter donc le financement, le temps que les aides publiques arrivent, puisque les aides publiques, elles sont garanties. Lorsqu'on est acteur, opérateur, maître d'ouvrage, on a un courrier signé par l'Europe ou par la région au demeurant qui s'engage en disant, voilà, votre projet a été retenu, vous obtiendrez tant de pourcentage de financement. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas se dédire, c'est un acte d'engagement. Et les banques pourraient assumer un portage financier à 0% pour faire en sorte que le porteur de projet, qui souvent, et ça a été dit, est en difficulté, puisse réaliser son projet.
Combien de temps en moyenne entre le moment où je retire le dossier à la région, je l'ai sur ma table chez moi, et le moment où je touche de l'argent si j'ai un projet en cours, Karima Deli?
Eh bien, ça varie, mais moi je peux vous le dire, j'ai suivi certains projets, ça peut aller jusque 2 ans, voire 3 ans.
Trois ans avant d'avoir, avant d'avoir
les financements. Voilà. Et le problème,
c'est trop long, c'est beaucoup trop long.
Voilà. Et donc, notre objectif, en tout cas, c'est que pour la prochaine programmation, ça aille plus vite. Maintenant, on a aussi le numérique. Avant, il fallait récolter des sommes de documents, ça faisait des gros dossiers là comme ça sur les bureaux. Aujourd'hui, il y a le numérique, il faut s'en saisir. Mais moi, j'insiste sur une chose, c'est que avant, dans les préfectures, on avait les SGAR. Vous savez, les SGAR, c'était ces fameux centres où on avait du personnel formé à la gestion des fonds européens. Et comme ça n'existe plus, ces personnels-là sont rentrer dans la région. Moi, j'appelle, et je le redis encore 3 fois, je crois, ce soir, mais l'ensemble des régions où, je peux vous assurer, ces gens-là font le travail dans les régions. Mais maintenant, il faut des moments réguliers. Par exemple, lançons tous les 6 mois les bourses au projet. Ouvrons les portes et les fenêtres et disons clairement, l'Europe a ça comme financement, c'est quoi vos projets? Et on accompagne l'ensemble des projets.
Marc Jolot?
Oui, je partage, c'est quelque chose d'absolument capital. J'insisterai encore une fois sur cette notion de proximité, de communication qui est absolument indispensable. Et où, on l'a dit tout à l'heure, les collectivités ne mettent pas forcément en avant l'Europe. Voilà, on dit, donc il faut travailler là-dessus. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer la plus-value. Moi, encore une fois, je reviens sur beaucoup de porteurs de projets que j'ai rencontrés qui nous disent, parfois du mal à avoir l'information, c'est compliqué, mais finalement, mon projet, je ne l'aurais pas réussi si je n'avais pas eu de fonds européens. Donc l'effet levier des fonds européens sur des projets locaux est déterminant, il faut le faire savoir.
Au 01 45 24 7000, Jacques, vous nous appelez de Haute-Saône, on vous écoute Jacques, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Oui, je voudrais simplement dire que je m'inscris un petit peu en faux par rapport à un certain nombre de choses que j'ai entendues ce soir. Moi, j'ai eu à mobiliser il y a quelques années, dans le cadre d'actions de développement en ruralité, des fonds européens, donc faire de l'émergence de projets, etc. J'ai bien entendu le monsieur tout à l'heure qui parlait donc d'un programme leader, mais ces fonds, qu'ils soient FEDER, plus récemment FEADER, etc., il y a le FEOGA aussi en agriculture, ou le FSE, lorsqu'ils servent en fait à mettre en place des actions de politique locale, pourquoi en fait mobiliser de l'argent des États membres qui transitent par l'Europe pour ensuite les distribuer à nouveau sur les États membres, alors que il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, il n'y a pas vraiment de service instructeur proprement dit. L'Europe délègue à chaque État membre, en fait, qui utilise ses propres services instructeurs, l'instruction des dossiers européens. Qu'on finance, par exemple, une action de véloroute Nantes-Budapest, ça a une vraie caractéristique de projet européen. Qu'on finance, l'échange des jeunes par rapport à Erasmus, c'est très bien. Mais en fait, je crois qu'on crée beaucoup de charges d'administration qui pourraient être évitées, tout simplement.
Merci de votre témoignage, Jacques. De l'argent qui part des États, qui monte à Bruxelles, qui redescend vers les régions, c'est vrai que ça simplifie pas les choses, Éric Andrieux.
Mais oui, mais parce que...
Parce que cet argent, les 450 milliards dont on parlait, c'est de l'argent qui vient des États, soyons clairs.
On définit malgré tout donc des politiques communes à l'échelle de 500 millions de citoyens européens. Et que ces politiques communes, tous les citoyens européens en bénéficient. Lorsqu'on a un réseau leader, Charlie nous parlait de leader tout à l'heure, les réseaux leaders, c'est les mêmes process de développement sur l'ensemble des 28 États membres de l'Union européenne. Et à l'échelle, je le redis, les 500 millions. Lorsqu'on parle d'accompagnement au projet ou à la formation ou à l'insertion, on passe par les biais des États membres, mais c'est une vision européenne dont il est question. Lorsqu'on accompagne les agriculteurs à élaborer du vin bio ou du vin tout simplement, ou des produits agricoles, etc., le marché, il est le marché européen qu'il faut contrôler, qu'il faut gérer. Donc ça veut dire que ces fonds publics qui viennent dans l'accompagnement à l'émergence des projets sur les territoires urbains, périurbains ou ruraux, ce sont les fonds publics qui accompagnent l'enjeu européen. Et c'est en ce sens-là où le continent fait sens. Et c'est pour cette raison que ces politiques publiques permettent de constituer ou de participer de la citoyenneté européenne et du projet européen. Et la cohésion, elle est celle-là. C'est d'essayer de mettre des pays qui sont en retard de développement au même niveau des pays qui sont plus en avance sur le développement. Et c'est pour cette cette raison d'ailleurs que les règles ne sont pas les mêmes. Il y a une certaine flexibilité, d'adaptabilité, où on va financer plus en taux d'intervention les pays les plus pauvres et financer moins les pays les plus riches. Parce qu'effectivement, il s'agit aussi de solidarité. Et il y a des États qui sont financeurs plus que d'autres, parce que ça participe de la solidarité européenne.
Marc Joulot ?
Oui, juste un mot pour compléter et reprendre ce qu'évoquait la question de l'auditeur qui a en partie raison, Jacques. Pour dire que ce qui se décide en ce moment, c'est la future politique de cohésion à partir de 2021 jusqu'en 2027. Et justement, l'idée, c'est pas que l'Europe s'occupe de tout. Sur ces fonds de cohésion, sur ces fonds européens, ils vont s'articuler autour de 5 priorités. Ce qu'on appelle la concentration thématique. On va vraiment resserrer les sujets sur lesquels ces fonds auront vocation à intervenir, avec 2 piliers parmi ces 5 qui seront vraiment importants, tout ce qui concerne la recherche, l'innovation, le développement autour notamment des PME. Et le deuxième pilier, c'est tout ce que j'allais dire, le domaine environnemental et climatique au sens large. Mais lorsque j'évoque ces sujets, ça va de la rénovation des bâtiments, les bâtiments thermiques, les enjeux autour de la mobilité, donc qui sont très larges, la protection contre les inondations, vraiment ces sujets, mais qui sont très concrets sur les territoires. Donc 5 priorités et 2 piliers, recherche, innovation, PME et tous les enjeux autour de l'environnement, pour dire que l'Europe, les fonds européens, doivent se concentrer sur ces enjeux importants, qui sont des enjeux à l'échelle européenne, parce qu'effectivement, comme le disait cette dimension-là est essentielle.
Karim Adélie, un dernier mot, très rapidement.
Très rapidement, c'est pour dire que lorsqu'on a mis en place la politique de cohésion, notre objectif, c'était la convergence. Et justement, on a aidé des pays qui venaient de rentrer dans l'Europe. Et aujourd'hui, grâce à ces fonds européens, on a eu une accélération majeure, économique, sociale, sur ces pays. Et la solidarité, c'est le projet européen. Et c'est ça qui fait la force de la politique de cohésion.
Merci à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. Il est 19h59 à la réalisation Fabrice Legge, assisté de Nathalie Poitvin. Et ici à Strasbourg, David Brand, Sarah Tanguy, Jürgen Schmidt et Pascal Fuchs. Dans quelques instants, il sera 20h sur France Inter.